histoire locale. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés. Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque mois, j'accueille à ce micro Aude Michaud et Stéphanie Corso, qui sont médiatrices culturelles au sein des archives départementales du Tarn. Bonjour Aude Michaud.
Bonjour.
Bonjour Stéphanie Corso.
Bonjour.
Alors, quel est donc le sujet que vous allez traiter aujourd'hui ?
Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un fonds d'archives de la série J, ou série des archives privées, qui recèle, comme tous les autres fonds d'ailleurs, de véritables trésors pour notre histoire. Mais ces archives privées ont la particularité d'être sans limite dans le temps, puisqu'elles couvrent toutes les périodes historiques, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Ces archives privées représentent à quelque chose près une distance d'environ 2 km linéaires sur les 19 km que conservent les archives départementales du Tarn. C'est donc une série importante quantitativement et surtout une série riche, surprenante et variée.
Alors, quelle est la différence entre archives privées et archives publiques ?
Alors, contrairement aux archives dites publiques, c'est-à-dire celles produites par des services publics comme l'État ou les collectivités territoriales, les archives privées sont des archives produites par une personne physique ou morale, de droit privé, dans le cadre de son activité. Et en fait, on va distinguer trois grandes catégories d'archives privées. Les archives des associations et syndicats, les archives d'entreprises et archives économiques, et les archives personnelles, familiales et seigneuriales. Nous allons nous pencher plus particulièrement sur les archives familiales, qui sont produites dans le cadre de la vie de famille, comme de la correspondance, des pièces comptables, des titres de propriété, des albums photographiques, etc.
Alors aujourd'hui, vous allez donc évoquer un fonds d'archives privées, qui a retenu toute votre attention. Alors quel est ce fonds ?
Alors le fonds qui nous intéresse aujourd'hui est contenu dans trois boîtes seulement, mais dans ces trois boîtes se trouve un grand et terrible moment de l'histoire de France, et notre pays se prépare à célébrer son centenaire. Je parle évidemment de la guerre de 1914-1918. Grâce à ce fonds d'archives, nous revivons cette guerre au plus près du conflit, quasiment au jour le jour, car nous disposons d'une série de plus de 600 cartes postales écrites depuis les lieux de combat par un poilu répondant au nom de Louis Calas. Mais dans ce fonds d'archives, il n'y a pas que des cartes postales écrites sur le moment. On trouve aussi des écrits postérieurs à la guerre. Louis Calas a consigné dans plusieurs cahiers ses réflexions sur le thème de la guerre, et ses écrits sont devenus des souvenirs de guerre. Cet homme très marqué par ce conflit ne cessera de réécrire à ce sujet jusqu'en 1977, année de son décès. Et en mettant en parallèle la correspondance entretenue avec sa famille au moment même du conflit et ses écrits postérieurs aux événements, on comprend assez bien l'état d'esprit dans lequel il se trouvait, et surtout, on est face à la réalité des faits et à la dureté des épreuves qu'ont dû affronter les troupes françaises.
Alors, comment ces documents sont-ils arrivés aux archives départementales du Tarn ?
Alors, il faut repartir 10 ans en arrière. Donc, nous sommes en 2003. En 2003, Suzanne Calas, fille unique de notre poilu, décède à la Bastide Rouayroux, à l'âge de 89 ans. Restée célibataire et sans descendant, Suzanne est très liée à une de ses amies à qui elle lègue tous ses biens. Donc devenue propriétaire des archives de Louis Calas, cette personne fait le choix de donner ses documents aux archives départementales du Tarn. Et pour respecter la volonté de Suzanne Calas, son amie n'a donné seulement que les archives concernant la guerre de 14-18, avec en plus quelques photos de Louis Calas à des âges divers, en civil ou en militaire, des documents un peu plus personnels comme son livret militaire, son livret du Parti Socialiste, ses cartes de membres de la Défense des droits de l'homme et du citoyen, et quelques imprimés montrant l'intérêt de Louis Calas pour la pensée des grands hommes de gauche comme Jean Jaurès, plus d'autres documents assez divers. Et cette série de cartes postales et les écrits contenus dans tous ces cahiers sont d'ailleurs si riches que nous avons fait le choix de consacrer cette émission à la présentation de Louis Calas, afin de mieux comprendre cette tombe. Et une seconde émission sera consacrée plus précisément aux conditions de vie des soldats, à la vie dans les tranchées, aux blessures de notre poilu et de certains de ses camarades, et aussi à son parcours atypique, car en effet, il est monté au front dès le début du conflit. Il part en 1916 en Algérie pour quelques mois, avant de revenir en France dans les tranchées, pour ensuite repartir en Grèce. Mais tout cela, nous le verrons au cours de la prochaine émission.
Alors, vous allez donc nous dévoiler qui était Louis Calas.
Alors, Louis Calas est né en 1886 à la Bastille de Rouayroux. Cet homme, boulanger de formation, qui n'a pas du tout l'esprit militaire, et ça nous le verrons un peu plus tard, fait son service militaire dans le Sahara au cours des années 1906-1908, et pour reprendre ses propres mots, au pays de Marche ou Crève. Par la suite, il se marie à Marguerite Berthomieu et ensemble, ils ont une fille, donc Suzanne, née en 1912. Bon, après cette petite présentation, nous vous proposons de rentrer plus précisément dans cette correspondance écrite au moment même où la France connaît l'une des périodes les plus graves de son histoire. La richesse de ses cartes postales est justement le fait qu'il écrit quasiment au jour le jour à sa femme Marguerite, retournée vivre chez ses parents à Puisserguier dans l'Hérault, et à ses parents restés à la Bastide Rouayroux. Et ainsi, on peut, à travers ces lectures, se plonger au plus profond de l'horreur de cette guerre, vivre au jour le jour des conditions de vie, ou plutôt de survie, de millions de soldats.
Alors donc, en août 1914, la guerre éclate, Louis Calas a 28 ans, et comme des milliers de jeunes hommes, il est mobilisé.
Voilà, Louis Calas part de la Bastide Rouayroux le 2 août 1914, jour de la mobilisation générale. Il part pour Montpellier. Il est envoyé en formation à Lunel, où se trouve le train des équipages du 16e corps d'armée, avec deux de ses amis, Pagès et Falipou. Ils sont intégrés dans une section de four de campagne et auront la tâche de fabriquer le pain pour le ravitaillement des troupes françaises. Un petit détail, mais ces fours sont montés sur chariots et traînés par des chevaux, et chaque voiture compte deux fours superposés l'un sur l'autre. Et une fois la formation terminée, les troupes montent rapidement vers le front. Et le 8 août 1914, il est déjà en poste à Is-sur-Tille, près de Dijon, donc dans le département de la Côte d'Or. Louis écrit à sa femme Marguerite régulièrement et il ressent déjà, dès le mois d'octobre, le manque des siens.
Alors nous écoutons Stéphanie Corso.
8 octobre 1914. Jusque-là, rien. Je me porte bien. Voilà un mois que les lettres n'arrivent plus. J'ignore si tu reçois les miennes. Que faites-vous? Je l'ignore et attends chaque jour impatiemment une lettre. À part cela, ma santé est bonne. Ne cesse pas de m'écrire. Je finirai bien par recevoir quelque chose.
Donc on voit que Louis Calas est encore dans l'incertitude des événements futurs, et comme beaucoup d'autres soldats qui se sont retrouvés dans des régions qu'ils ne connaissaient pas au milieu d'un conflit dont souvent les causes leur étaient éloignées. La plupart des soldats partent donc vers l'inconnu, comme le montre cette carte envoyée le 30 novembre 1914 à sa femme.
J'arrive au-delà de Verdun et vais repartir demain pour le front. Cette vie de bohème me va. On voit au moins ce qu'est la guerre. Ce qu'il y a, c'est qu'on est rudement secoué dans ces wagons. Nous touchons à 1,85 francs par jour pour notre nourriture. C'est peu au prix où sont les denrées dans ces parages. On arrive toutefois à manger tant bien que mal en achetant à 5. Nous avons un petit poêle à l'intérieur du wagon et pouvons faire, quoique cela ne soit pas recommandé, le café en cours de route, et même à la rigueur, faire un peu de soupe. Nous sommes d'habitude 10 par convoi, 8 hommes et 2 cabots. J'ai reçu le colis du 19 octobre avec tout ce qu'il renfermait. Il me manque maintenant que la couverture. Avec de la patience, tout arrivera. Actuellement, le temps s'est radouci et la neige a disparu. Ma santé est bonne, et j'ai très bon appétit, quoique nos repas ne soient pas réguliers. À toi et à Suzanne, mes meilleurs baisers. Louis.
Donc, cela fait maintenant près de 4 mois que Louis Calas est parti de chez lui, et son travail journalier au sein de la compagnie consiste à la fabrication du pain pour les troupes, donc travail qu'il connaît bien, puisque, rappelons-le, il a été boulanger avant la guerre. Mais la journée du 9 décembre 1914 va marquer sa vie de soldat.
Alors donc, nous allons plonger avec la prochaine carte postale dans l'horreur de la guerre.
Chers parents, c'est de Dombasle, sous le grondement incessant du canon, que je vous écris cette carte. La journée du 9 décembre sera toujours présente à ma mémoire pour ce que j'ai vu de plus triste. Une colonne d'hommes, ou plutôt de fantômes, venant des tranchées, plein de boue méconnaissable. Un temps sombre, de la boue, des spectres défilant, des rhumatisants, des éclopés, tel est le résumé de la vision que j'ai présente à mes yeux. J'ai vu des quantités de blessés venir du champ de bataille, mais jamais je n'avais ressenti pareille impression que de voir défiler cette colonne de spectres. Il serait à souhaiter que cela cesse bientôt. J'ai reçu l'argent. Je vous embrasse.
Alors, des visions d'horreur comme celles qu'il a vues en Meurthe-et-Moselle, il va en rencontrer et en relater sans cesse à sa famille. 15 jours après Dombasle, il est affecté à Marcilly-sur-Tille, en Côte d'Or. Et pour s'y rendre, il traverse le département de la Meuse. Et là, même constat de désolation, comme il le décrit si bien à sa femme le 22 décembre 1914.
J'arrive à l'instant à Révigny où j'étais depuis vendredi dernier. Jamais encore je n'avais vu autant de ruines que dans ce pays de Révigny. J'ai été à Autrécourt et à Triancourt par le chemin de fer à voie étroite. Tout le long de la route, des villages détruits, des restants d'obus, des balles, des sacs abandonnés, des capotes, casques, képis de tout mélangé, boches et français, des bidons troués, des gamelles, des arbres coupés par les obus à moitié hauteur. On voit que la civilisation moderne est passée par là. Dans un vaste champ labouré par les obus, nous apercevons des monticules de terre surmontés de croix où il y a sur chacune un képi et un ceinturon. Là, d'après ce que nous dit le mécanicien, dorment 16 000 hommes, 10 000 boches et 6 000 français. C'est triste et impressionnant de voir ce vaste champ de bataille. Tu me demandes s'il ne serait pas possible d'obtenir une permission. Inutile d'y penser seulement. Nous ne sommes pas en garnison ici, nous sommes en campagne. Donc rien à faire, quoiqu'il me tarde de vous revoir à tous.
Alors après ces visions d'horreur, nous allons faire une pause musicale avec la chanson de Craon. C'était une chanson anonyme qui était chantée dans les tranchées. C'était un véritable cri de colère des soldats contre la guerre.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu aux civils. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. Que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Vous êtes à l'écoute de Radio Albigès, dans cette émission Histoire locale, Aude Michaud et Stéphanie Corso, qui sont médiatrices culturelles aux archives départementales du Tarn, évoquent aujourd'hui la correspondance d'un soldat de la Grande Guerre de 14-18, Louis Calas de la Bastide de Rouérou. Alors, Louis Calas écrit donc à ses parents la dévastation qu'il trouve quand il passe d'un champ de bataille à un autre. Alors, dans quel esprit peut être un soldat qui traverse des contrées aussi dévastées par la guerre ?
Alors, on peut comprendre qu'après avoir vu de tels territoires dévastés et ne sachant pas de quoi sera fait demain, les soldats essaient de trouver du réconfort dans la correspondance qu'ils entretiennent avec leurs familles et amis. Chaque lettre est reçue un petit peu comme un événement. C'est le seul lien qui leur reste avec leurs proches, et ce manque se fait surtout ressentir à certains moments bien précis, comme par exemple à l'approche de la nouvelle année, où on peut remarquer que le moral des troupes est au plus bas.
Le 28 décembre 1914. Chère Marguerite, à mon arrivée de Verdun, j'ai eu 4 lettres, 2 de toi, une de la Bastide et l'autre de Maurassant. Tous vous me donnez de bonnes nouvelles, c'est l'essentiel. Suzanne a été fatiguée, me dis-tu? Prends bien garde à elle, c'est tout ce que je te recommande. Bonne année à tous, puisque c'est d'usage. Ma meilleure caresse à Suzanne, mon meilleur baiser à toi, Louis.
Le 31 décembre 1914, Louis Calas écrit à ses parents.
Hier, tant de givre à Dombasle, ce qui n'empêche pas le canon de tonner. Les débuts de l'année nouvelle ne seront pas meilleurs. Il serait à souhaiter que cela cesse bientôt et que le bon sens reprenne le dessus. J'ai bon espoir et pense que cela se terminera bientôt.
Malheureusement, les années de guerre vont se succéder et les fins d'année aussi.
Alors un an après, il écrit à sa femme et que dit-il?
Le 26 décembre 1915. Tu sais que je n'aime pas ça, à faire des souhaits le jour de l'an. Toutefois, je désire une chose, revenir bientôt auprès de vous. Combien de vœux, l'an dernier, à pareille époque, n'ont-ils pas été faits? Et je suis bien certain que la totalité n'a pas été exaucée.
Le fait de ne pas être auprès de ses proches décuple le besoin, en fait, d'avoir des nouvelles de sa famille. De ce fait, Louis Calas reproche souvent à sa femme de ne pas lui écrire aussi fréquemment que lui le fait.
2 mai 1915. Je m'étonne que tu ne trouves pas un moment pour m'écrire. 3 juillet 1915. As-tu reçu les lettres que je t'ai envoyées le 19, 22, 25 et 30 écoulés? Depuis le 27, je n'ai rien eu de toi.
À certains moments, ses reproches sont même assez durs, comme le montre une carte écrite le 25 août 1917.
Chère Marguerite, pas de lettres. Tu n'as pas le temps d'écrire. À la fin du mois, je ne t'écrirai qu'une fois par mois pour te dire si je suis mort ou vivant. Si mes cartes ou lettres sont presque indifférentes, ce sera une corvée de moins pour toi à répondre, à moins que ce ne soit négligence ou paresse. Pas mort encore, ni même en vie. Mes meilleures caresses à Suzanne. Un baiser pour toi, Louis.
Alors donc, dans cette colère, on devine quand même une grande souffrance chez ce soldat.
Oui, tout à fait. C'est certainement une lettre qui a été écrite sur un coup de colère, car dès le 28 août 1917, soit 3 jours après cette carte un petit peu assassine, la correspondance reprend avec la même régularité qu'avant. Mais Marguerite n'est pas la seule à essuyer des reproches. Les parents de Louis ont aussi droit à quelques remarques. Aujourd'hui, on comprend tout à fait le besoin de quelques lignes écrites par des êtres chers. Mais Louis avoue à sa femme qu'il ne garde que les cartes envoyées par Suzanne, sa fille. Celles de sa femme et de ses parents sont brûlées, car il ne peut pas se permettre de transporter des choses inutiles pour sa survie.
Alors, quel était donc le rôle de la famille pour un soldat pendant la guerre?
Alors, au-delà du soutien moral, la famille a aussi un rôle important dans le soutien matériel. Les soldats manquent de nourriture, de vêtements. Aussi, l'envoi de colis venant des proches est essentiel. Par exemple, le 22 mai 1917, Louis Calas demande à sa femme.
Envoie-moi des colis, on ne trouve absolument rien ici, donc égalité avec tout le monde.
Ses parents sont aussi mis à contribution.
Le 5 mars 1915. Vous pouvez m'envoyer un nouveau colis de saucisses n'ayant pas trouvé le goût au premier. PS. Dans le colis, vous pourriez y joindre un foulard en toile bleue ou noire pour mettre autour du cou. Pas blanc, ni en soie. Le 7 septembre 1916. Nous travaillons sous les obus. Des colis seraient les bienvenus car il n'y a rien. Pas de boîte de conserve car elles arrivent presque toutes en mauvais état. Mes camarades s'en plaignent aussi. Le 23 juin 1917. Chers parents, ai reçu le colis dont vous m'annonciez l'envoi par votre lettre du 19. Sitôt arrivé, sitôt mangé, avec 2 de mes camarades. On mélange nos colis.
Le besoin d'argent est aussi présent et il demande très souvent à sa famille de l'en envoyer régulièrement.
Alors, on a souvent relaté la solidarité entre les soldats. Est-ce que Louis Calas en parle dans sa correspondance?
Alors oui, tout à fait. On le comprend, car dans ces conditions difficiles, une solidarité se met en place entre les soldats. C'est certainement un moyen de trouver du réconfort auprès de ses compagnons d'armes.
28 décembre 1914. Il y a ici avec moi de très anciens camarades avec lesquels je m'entretiens du passé. Ça fait toujours plaisir, surtout dans la situation présente, avoir quelqu'un à qui l'on puisse causer en ami.
Alors la notion de camaraderie est très présente tout au long de la correspondance de Louis Calas. Rares sont les lettres où il ne mentionne pas des noms de soldats tarnés qui l'entourent ou qu'il connaissait avant la guerre, comme Isard, Caille, Pagès, Escande, Falipou, et même son homonyme, comme il aime le préciser, Louis Calas de Lacône. D'ailleurs, Isard prend la peine, pendant ses permissions, de venir donner de vive voix des nouvelles de Louis Calas à sa femme, et Escande d'apporter un souvenir aux parents de notre soldat.
5 mars 1915. Chers parents, lorsque vous recevrez cette carte, Escande vous aura sûrement donné de mes nouvelles. Je lui ai remis un petit paquet contenant des chaussettes sales et trouées, ainsi que des morceaux des cloches de l'église de Clermont-Argonne.
Ce lien entre les soldats est si fort qu'il ne manque pas une occasion de s'entraider, avec même une pointe d'humour comme le montre une carte qu'a reçue Louis Calas d'un certain Élie, lui aussi soldat.
31 mai 1917. Cher ami, j'ai reçu ta lettre. Tu me dis que tu es au milieu des ruines, il s'agit que ça ne barde pas trop. Nous autres aussi, on y est, pas pour longtemps. On est des premiers à partir. Tu me dis que tu fais un repas par jour, c'est pour être plus léger. Je t'ai porté un colis, je l'ai donné au vague-mestre. Tu me diras si tu l'as reçu. Je suis arrivé mardi à 9h du soir. Tu me dis que tu as 20 sacs à ton escadron, tu lui donneras le bonjour. Ton ami dévoué, Élie.
Bon, rappelons que Louis Calas est boulanger et dans une formation de four de campagne et qu'il a la tâche de fabriquer le pain pour le ravitaillement des troupes françaises. Il n'est donc pas en première ligne sous le feu de l'ennemi. Et plus le temps va passer, plus les liens vont se resserrer jusqu'au moment ultime où Louis Calas avoue à sa femme qu'il préférerait être dans les tranchées avec ses camarades que de rester à l'arrière.
Le 3 septembre 1916. Me voilà définitivement rendu où j'étais avant. Toutefois, j'ai eu une déception. Tous mes camarades sont partis au front en renfort. Isard est dans les tranchées, garde le pourtoi, il l'annoncera lui-même à ses parents. Il y a peu de personnel ici. Moi, je ne sais pas si je resterai longtemps ici. Il se pourrait que je passe quelque temps encore à Révigny. Moi, je m'ennuie pas mal. D'un côté, je préférerais être où sont mes camarades.
Et 5 jours après, le 7 septembre 1916,
je suis parti précipitamment de Révigny hier matin à 3h30, et depuis, je suis sous les obus. J'ai retrouvé Pagès. Il n'est plus au même endroit, mais toujours dans les mêmes parages, au même travail. J'ai beaucoup de plaisir à retrouver tous mes camarades, d'autant plus que je ne croyais pas les revoir. Assez occupé pour nous installer, je termine ma carte. Je te donnerai de plus amples détails sur ma prochaine. Par la pensée, toujours avec toi. Meilleur baiser, Louis. PS. Même adresse et colis, car il n'y a rien ici. L'eau même est rare. On doit faire 2 kilomètres.
On peut aussi penser que dans ces moments affreux qu'aucun homme ne mérite de vivre, de nombreux soldats se raccrochent à la religion pour tenir bon.
Alors est-ce que Louis Calas y fait allusion dans ses lettres à la religion ?
Oui, tout à fait, mais Louis Calas ne se gêne pas pour clamer haut et fort qu'il ne croit pas en Dieu. C'est d'ailleurs un sujet de discorde entre lui et Marguerite, et les exemples sont nombreux.
Le 15 janvier 1916, tu voudras bien ne faire dire à Suzanne aucune prière pour moi. Tu sais que cela ne me fait pas plaisir. S'il existe, tu n'ignores pas que le fils ne vaut pas plus que le père.
Autre exemple encore plus affirmé sur sa position par rapport à la religion.
26 décembre 1915. Malgré que la plupart aient imploré le Dieu Tout-Puissant, après tant de faits probants, ne crois-tu pas que ce soit un être créé par la cervelle de l'homme dans un temps où elle était elle aussi qu'à l'état de création ? La transmission de cette croyance s'est faite de génération en génération et dont les puissants du monde en ont fait une arme d'asservissement. Reconnaissez une chose, que vos prières sont inutiles et que votre bon Dieu est sourd. Laissez donc de côté cette idée fausse.
Et plus les mois de guerre s'enchaînent, plus ses positions se renforcent. Il trouve même le temps de lire des ouvrages reprenant les commandements que Dieu donna à Moïse sur le mont Sinaï, reprenant avec critique le 5e commandement qui dit « Tu ne tueras point ». Et dans une carte qu'il écrit à Marguerite, le 16 mars 1916, Louis Calas va se laisser aller et dire le fond de ses pensées. De cette lettre assez longue, on peut retenir quelques phrases qui illustrent bien son état d'esprit.
Quant à ton Dieu, je ne t'en parlerai plus, vu que cela ne te fait pas plaisir. Conserve tes illusions. N'y croyant pas, j'en parle sans égard.
Alors, nous allons revenir peut-être un peu à l'état d'esprit de Louis sur l'issue de cette guerre. Qu'en pense-t-il ?
Alors, contrairement à sa femme, Louis Calas ne se fait aucune illusion au vu de tous les moments difficiles qu'il a pu vivre jusque-là, tant sur le plan moral que physique. Le 18 février 1915, il écrit à sa femme.
Voilà bientôt 7 mois que je ne me suis pas déshabillée et que comme lui, on a de la paille. Je ne m'en plains pas et m'y trouve très bien.
Autre exemple où on voit bien que le moral est au plus bas.
Dijon, le 29 mai 1915. Aujourd'hui, nous avons la pluie. J'ai le cafard. et ne suis pas le seul quand on a pensé qu'il y a 10 mois qu'on mène une vie si contraire à celle qu'on était habitué. Toujours la même nourriture, bouillon et bouilli. J'achète soit un peu de fromage, des radis, du vin pour après le repas, car mon estomac finit par se lasser de manger toujours pareil. Tout cela finira bien un jour.
Le 18 juin 1915, il écrit encore.
« Suis toujours à Dijon et travaille au four. J'ai travaillé pendant 18 heures sans discontinuer. C'est fatigant, surtout pour nous, qui n'étaient pas habitués. Nous avons la neige depuis hier. Les paupières se ferment et tombent de sommeil. Je vais m'étendre sur la paille où l'on rêve parfois. »
Est-ce que Louis a exercé sa fonction de boulanger durant toute la guerre ?
Non. Donc, hormis son travail au four de guerre, notre soldat occupait des postes aussi variés qu'étonnants.
Dijon, le 13 mars 1915. Chère Marguerite, je travaille au doc maintenant. Il me semble te l'avoir déjà dit sur une de mes cartes, à arranger des souliers, pantalons, vestes. On y manipule quelque chose dans ces magasins. Il y a au moins 2 millions de godillots et autant de pantalons. C'est pour te donner un simple aperçu.
Et 15 jours après, il est affecté dans un moulin pour concasser du maïs qui sera mélangé à l'avoine pour les chevaux. Et au mois de juillet de la même année, toujours à Dijon, il écrit à Marguerite.
Je travaille au doc, au triage des épaves qui viennent du champ de bataille. Je ne t'énumère pas toutes les choses que l'on passe par les mains, comme choses intimes, des lettres, des photos, très rarement des médailles.
Alors dans quel état d'esprit est peut-être un soldat qui assure un rôle aussi triste et macabre en fait ?
Disons qu'avec ce travail de triage des épaves, Louis Calas s'est confronté de plein fouet aux terribles pertes humaines subies par les troupes françaises. Et en lisant ces phrases, une certaine mélancolie se dégage de cette carte. Louis Calas est conscient que ses photos, ses lettres, ses choses intimes, comme il le dit, sont les dernières traces laissées par des pauvres soldats certainement morts au combat. Combat que lui aussi va vivre au plus près à partir de 1916, en côtoyant la mort jour après jour, car il aura la lourde tâche d'être nettoyeur de tranchées, c'est-à-dire d'enlever les cadavres des tranchées. Mais tout ceci, nous le verrons lors de la prochaine émission.
Alors aujourd'hui, quelle conclusion pouvons-nous tirer de cette première partie de la correspondance de Louis Calas ?
Alors grâce à ces quelques boîtes d'archives, nous revivons un pan assez noir de notre histoire. Ces documents sont là pour éviter d'oublier ce qu'est une guerre. Cela n'aura échappé à personne, le pays célèbre la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et à cette occasion, une grande collecte nationale a été organisée la semaine dernière pour faire ressortir des tiroirs et des vieilles armoires tous les documents et objets datant de la période de 14-18. Et évidemment, les archives départementales du Tarn sont partenaires de cette collecte.
Et pour les mois à venir, alors quels sont les projets d'action éducative des archives départementales du Tarn ?
Alors le service éducatif des archives est, comme vous pouvez l'imaginer, déjà bien impliqué dans de nombreux projets pédagogiques autour de la Première Guerre, où notamment la correspondance du soldat Louis Calas tient une place importante. Mais nous tenons aussi à préciser que pour le moment, ce fonds sur Louis Calas n'est pas encore communicable et donc n'est pas disponible en salle de lecture, car il est en cours de classement et de numérisation. Mais pour tous les enseignants intéressés par un projet autour de la Grande Guerre, ou d'ailleurs notre projet, nous vous invitons à nous contacter donc aux archives départementales.
Bien, ben merci Aude Michaud, merci Stéphanie Corso pour la lecture de ces cartes et à très bientôt pour continuer à découvrir la noirceur de la guerre de 1914-1918 à travers la correspondance de Louis Calas à ses proches et Louis Calas, nous le rappelons, qui était boulanger à la Bastille de Rouairoux. Au revoir à tous et à bientôt sur les ondes de Radio Albigès.
Au revoir. Au revoir.
Histoire locale. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés.